Moi, je vous remercie d'avoir répondu à cette invitation de rencontre. C'est bien, notamment à la rentrée, et après une année qui a été bien chargée pour la collectivité, qu'on puisse faire un tour d'horizon avec chacune des organisations syndicales. Et donc, évidemment, si moi-même j'ai identifié déjà quelques chantiers qui vont nous occuper dans les prochains mois et dès maintenant, l'idée c'est aussi de pouvoir échanger avec vous sur des problématiques, des sujets qui pourraient aussi nous occuper. Et toujours, je dirais, selon la même méthode, c'est-à-dire que je suis vraiment positionné la direction générale du service comme étant à l'écoute dans la proximité. On ne sera pas toujours d'accord sur tout, par définition, mais enfin on peut aussi essayer de trouver des solutions intelligentes. Et moi, personnellement, je me félicite des quelques situations individuelles qui ont pu être à un moment donné assez vite prises en considération pour qu'on essaie de trouver intelligemment quelque chose. Vous nous faites remonter régulièrement, je crois, des situations avec quand même effectivement parfois des choses qui ne tournent pas bien, qui ne tournent pas rond. Donc c'est aussi notre devoir de trouver des solutions intelligentes sur ces sujets-là. Donc je pense vraiment que sur les quelques exemples que j'ai en tête, on a pu vraiment trouver assez rapidement en plus traiter des situations individuelles. Peut-être sur les sujets que j'ai identifiés comme étant ceux de la rentrée, mais on a pour en reparler et puis je suis surtout aussi pour vous écouter. Bon, il y a toujours évidemment comme principal sujet la protection de l'enfance, parce que clairement, si on a pu trouver, je pense, des premières mesures à court terme, dans l'urgence, faisant suite aussi à un mouvement d'ampleur dans la collectivité, le sujet n'est pas clos, bien au contraire. Alors j'ai indiqué l'arrivée d'Anne Devraise, qui est déléguée à l'enfance, famille, jeunesse, qui connaît bien les problématiques, qui a commencé à rencontrer avec moi des équipes pour justement travailler sur le long terme, puisqu'en réalité, au-delà de l'urgence, il faut qu'on ait vraiment des réponses structurelles aux problématiques qui sont celles de travers sociaux. Donc c'est un sujet qui va nous occuper encore un bon moment. C'est un sujet aussi qui est national, il y a une réforme qui se prépare, donc à nous aussi quand même d'être à la pointe et essayer de faire peser aussi nos choix, nos propositions dans la rédaction d'un texte gouvernemental. Donc vraiment la protection de l'enfance, gros sujet, je pense qu'on y reviendra sans aucun doute. Deuxième point important, c'est la question de l'administration durable, puisqu'en réalité, c'est que le département du Nord est quand même parmi les premiers employeurs de la région. Personnellement, je suis nordiste d'origine. Quand je vois un peu la multiplication des pics de pollution dans la métropole, je me dis quand même qu'il y a un sujet, quoi. Et qu'on peut peut-être, nous, à notre petit niveau, déjà commencer à essayer de faire bouger un peu les choses. Et puis dans nos politiques publiques, ensuite, il y a clairement des choses à améliorer, les achats durables, la rénovation des passoires thermiques dans nos bâtiments, que ce soit les collèges, les UTPS et compagnie, on a quand même tout un ensemble de bâtiments pas du tout fonctionnels, qui consomment, qui sont pas du tout, qui proposent pas forcément des conditions de travail non plus terribles pour les agents. Et puis, globalement, il y a ce qu'on peut faire, nous, en interne, très clairement et facilement. Il y a un certain nombre de pratiques à changer. On brasse encore énormément de papier. Il y a des choses quand même qui doivent, ça suppose également, de doter nos agents d'outils permettant aussi de travailler à la dématérialisation correctement. Donc ça, c'est un sujet également qui nous occupe, l'administration durable, et qui va s'occuper encore ces prochains mois. Et une délibération cadre qui sera proposée vraisemblablement en novembre pour justement proposer à la fois des actions sur un volet interne et un volet externe. Mon troisième sujet, c'est la relocalisation des services qui est les organisations syndicales qui occupent actuellement le forum. C'est un gros sujet. On est sur une période en plus qui va durer à peu près 3 ans de relocalisation avant l'arrivée du nouveau forum. Donc il faut que ça se passe en bonne intelligence, en essayant aussi de continuer à amender les propositions qui ont pu être faites. Je pense qu'on est en train de trouver à peu près une solution équilibrée, où chacun effectivement doit faire des efforts. Et c'est que les organisations syndicales sont aussi, je le salue, concernées par une diminution du nombre de mètres carrés. La question aussi, c'est de préparer dès maintenant l'arrivée du nouveau forum en ayant un contenu, une offre intérieure, ce qu'ils appellent dans le jargon le microzoning, qui soit vraiment en réponse aux attentes de nos agents, y compris donc en travaillant avec vous, il faudra vraiment qu'on puisse travailler le cahier des charges intérieur. Pour l'instant, on a une enveloppe, on a une architecture, mais tous les étages, tous les niveaux sont blancs, et c'est à nous maintenant à les construire ensemble. Voilà aussi un sujet qui va nous occuper dans les prochains mois. Enfin, le comité technique d'avant juin avait proposé donc la création d'une DGA partenaire au service des services. Bon voilà, moi, ma consigne, très clairement, c'est que rapidement, il y ait des mesures très concrètes qui voient le jour. C'est pas juste de l'affichage, on a une DGA au service des services, mais c'est que vraiment, les choses changent concrètement. On a déjà un peu commencé, je pense notamment à la DRH. J'avais demandé, moi, à François Bernard, de faire un tour de toutes les directions pour anticiper les départs en mobilité, les départs à la retraite, pour connaître aussi les besoins de formation, pour voir un petit peu ce qui était, ce qui relevait des conditions de travail et ce qui n'allait pas forcément. Donc, je pense qu'il y a eu un gros travail de mener. Il faut qu'ils se poursuivent, il faut que la DSI fasse de même, et que vraiment on ait une DGA qui ne soit pas uniquement prestataire, mais qui soit vraiment au service et dans l'accompagnement de nos collègues. Et enfin voilà, mon chantier aussi qui va continuer à m'occuper, c'est la question de l'écoute, de la proximité. Je continue à faire du terrain, il faut qu'on rencontre nos collègues. Moi, je suis assez frappé quand je fais le bilan depuis un an, je suis au département. Et encore une fois, je le dis en étant du Nord, je suis assez frappé par le fossé qui est ressenti entre l'île et le reste du territoire. Et vraiment, quand on écoute les agents, quand on les voit dans la Vénois, dans le Douaisis, ils disent « Ah ouais, mais vous à Lille, vous êtes dans votre truc, mais vous ne savez pas ce que c'est la réalité pour nous. » On est souvent considéré comme la cinquième roue du carrosse. C'est quelque chose que j'ai encore entendu il y a peu de temps. Bon, il faut vraiment qu'on arrive à réduire ce fossé, quoi. Alors il y aura toujours un sentiment peut-être que les décisions se prennent à un niveau, mais on apprend aussi beaucoup en visitant. Moi j'ai beaucoup appris, j'ai fait des dizaines et des dizaines de visites sur le territoire. On a parfois pu régler aussi des problématiques, simplement, des locaux, des copains, etc. Mais on écoute aussi et on voit que finalement on a des agents qui sont aussi passionnés par ce qu'ils font, qui sont engagés. Et donc c'est ça aussi qu'il faut continuer à travailler. Voilà, ça c'est aussi mon chantier. Continuer à faire du terrain et à écouter les collègues. Voilà très brièvement ce que je voulais vous dire, un peu parmi les sujets qui m'interpellent. Mais voilà, on est aussi pour en échanger et je suis aussi pour vous écouter surtout.
Alors, ouais, vas-y.
Il y a effectivement des choses qu'on souhaitait aborder parmi les points que vous avez évoqués. Donc ça tombe bien. Il y aura également d'autres points. Si vous souhaitez, on va commencer par l'action sociale et la protection de l'enfance, parce que c'est vrai que c'est un gros point.
Ouais, c'est vrai qu'on a visionné votre vidéo avec intérêt, et on savait effectivement quels étaient pour vous les chantiers importants pour cette rentrée scolaire. Concernant l'action sociale, vous savez que nous, on y est particulièrement implanté et sollicité par nos collègues de manière très régulière. Donc nous, il y a plusieurs choses qui nous semblent importantes de clarifier entre nous par rapport à l'année écoulée concernant la protection de l'enfance, mais plus globalement l'action sociale. Ouais. Parce que la protection de l'enfance, c'est la partie visible de l'iceberg. Et effectivement, ça a sollicité des mobilisations l'année dernière, mais pas uniquement des professionnels de l'ASE. Il y avait aussi beaucoup de collègues de PMI et du service social départemental et de secrétaires dans les mobilisations. Donc c'est un problème qui dépasse largement la question simple de la protection de l'enfance. Et d'ailleurs, je pense que dans vos vidéos, vous parlez de prévention et de protection de l'enfance. Donc nous, là-dessus, on est raccord. C'est bien la notion de prévention. Et la prévention, elle se joue déjà au niveau du service social départemental. Alors d'abord, par rapport à l'annonce de Mme Devrez, donc on la connaît bien, nous. Parce qu'elle a déjà fait un tour dans la maison.
Oui.
Voilà. Donc nous, on la connaît puisqu'elle était de mémoire directrice enfance-famille adjointe. On sait que c'est quelqu'un qui maîtrise un certain nombre de choses par rapport à l'action sociale et à la protection de l'enfance. Après, on vous donne notre avis. C'est quelqu'un qui était aussi à ce moment-là très en déconnexion avec la réalité du terrain. Et dans les rencontres qu'on a pu avoir, notamment sur des moments de tension, de crispation dans certaines équipes, je pense de mémoire, à Aven, à une époque où l'équipe enfance était en droit de retrait par rapport à une surcharge de travail considérable, elle s'est fait huer parce qu'elle a débarqué dans l'équipe avec un discours théorique. Je me souviens même qu'elle avait évoqué comme référence l'émission de Jean-Luc Delarue, Ça se discute, comme étant une référence biblique sur les questions de protection de l'enfance, ce qui fait que ça, tout le monde a éclaté de rire, quoi. Donc il y a ce souvenir-là, en tout cas, de Madame de Vresse. En tout cas, nous, ce qui nous préoccupe plus, c'est quelle place elle va jouer, quelle place elle occupe, parce que vous nous avez présenté Madame Damani il y a quelques mois. Est-ce qu'elle remplace Madame Damani? Est-ce que c'est autre chose? Quelle place dans l'organigramme? Quel va être son rôle? Monsieur Lemoine, nous, pendant des années, vous savez, ça fait 15 ans, 14 ans qu'on est dans la boîte, le DGASOL, et anciennement le DGAS, a toujours été un interlocuteur. Monsieur Schaeffer à l'époque, Monsieur Lemoine au début, mais un interlocuteur régulier, très régulier. Et là, Monsieur Lemoine, il est aux abonnés absents. On ne voit pas, nous, hein, et les collègues.
Oui.
On ne sait pas. On ne sait plus quel est son rôle, sa place. Quand on l'interpelle, d'ailleurs, il ne nous répond plus, que ce soit nous ou bien les collègues.
C'était avant que vous arriviez. Hein,
ah oui, c'est pas...
C'est pas depuis un an.
Depuis l'alternance, je pense. Voilà, hein, vraiment. En tout cas, nous, on se situe là. Ouais. C'était un interlocuteur direct et régulier par rapport à toutes les questions organisationnelles ou de fond liées à l'action sociale. On avait présenté même plein de propositions sur, par exemple, moi, je me souviens, on s'était pointé dans son bureau en lui présentant un projet de procédure concernant les informations préoccupantes, qui n'a absolument pas été pris en compte, et qui a débouché après sur les CRIP. On apportait des projets, travaillait avec nos collègues, et c'était l'interlocuteur. Aujourd'hui, ça ne l'est plus. On nous a bombardé Madame Damani, qu'on a vu épisodiquement dans des réunions depuis la mobilisation. Sincèrement, entre nous, on la connaît aussi, Madame Damani, hein, puisqu'elle est tourquenoise, et puis elle était fort implantée sur la DT, et moi en plus j'y ai bossé sur la DT-MRT, ouais. Donc on la connaît, mais elle semble débarquer, un petit peu en tout cas, avec plus une approche politique, dans le sens politicien, qu'une approche technique. En tout cas, c'est le sentiment qu'on vous donne, hein, par rapport à Madame Damani. Hein. Et donc, quand vous nous dites Madame de Vresse arrive, Anne de Vresse, on se dit... Ok, pour faire quoi? Quelle place? Est-ce que c'est quelqu'un qui est placé directement auprès de vous? Est-ce que c'est la future DGA Sol? Est-ce que c'est l'adjointe de Monsieur Lemoine? Est-ce que ça va être notre interlocutrice concernant l'action sociale et la protection de l'enfance? Est-ce que c'est que protection de l'enfance? Est-ce que c'est action sociale en général? Voilà. Donc ça, c'est... quelles sont ses missions, quoi, en gros? Et on aimerait bien avoir des précisions par rapport à ça.
C'est...
Parce que vous êtes assez évasif par rapport à ça. Vous dites, elle est là.
Ouais.
D'ailleurs, vous allez rencontrer les collègues dans les DT, ouais, avec elle.
Oui, tout à fait.
Hein,
D'ailleurs, c'est déjà un début de réponse. C'est-à-dire que c'est elle aujourd'hui l'interlocutrice sur ces sujets-là. Voilà, parce qu'effectivement, moi, je pense que la DGA Sol, vous l'avez parfois dit, c'est une grande DGA.
Ouais.
Avec énormément de chantiers, il y a beaucoup de transformations. On a l'insertion professionnelle, on a l'autonomie qui est quand même aussi... et on a effectivement ces questions d'enfance, famille, jeunesse. Prévention et protection de l'enfance, vous avez raison, il ne faut pas oublier la prévention. Donc l'idée, c'est de dire, voilà, maintenant on a quelqu'un qui va muscler un peu aussi la DGA Sol pour pouvoir aussi répondre aux problématiques et qui connaît le sujet, puisque bon, elle a notamment travaillé sur la rédaction de la loi de 2016. Donc,
ouais.
Ça, c'est, alors voilà, après, bon, elle pourra peut-être nous faire une. Nous expliciter un peu ce qui est dans l'esprit de la loi. Et donc. Pour moi, c'est sur ces questions-là, c'est l'interlocutrice. Et effectivement, vous avez raison, moi, dans les différentes visites que je ferai, elle sera systématiquement à mes côtés. Ça, c'est un point important.
Mais elle est placée directement auprès de vous, alors on la situe comment
On la situe quand même au sein d'un déjà sol, pas en électron libre.
Parce que Mme Damani, excusez-moi, elle est...
Elle m'était rattachée.
Voilà, c'est ça.
Alors, pour Zina Damani, puisque vous me posiez la question, Zina Damani, moi, je lui avais demandé... travailler sur la mise en œuvre des 10 mesures. Parce qu'il ne s'agissait pas uniquement de pondre un document, et puis, basta, hein, tout est réglé, maintenant tout le monde rentre chez soi, etc. Mais vous le savez pertinemment, vous connaissez bien aussi cette grande maison, parfois sur des sujets transversaux qui concernent plusieurs directions différentes, c'est un peu compliqué parfois de mettre en œuvre. Donc moi j'avais besoin de quelqu'un dont le boulot, c'était vraiment d'interpeller les directions, de dire, bon, on en est où là-dessus, quoi. Typiquement, sur le nombre de recrutements, sur le nombre de situations par travailleur social. C'était ça également, vraiment l'enjeu très technique pour Zina Damani. Mais vous avez raison aussi, Zina Damani, elle va terminer sa mission. Et je pense qu'à terme, voilà, l'idée, c'est qu'on ait une reconfiguration autour d'Anne de Vresse. Anne
d'accord.
De Vresse, elle aura besoin d'une équipe également. Moi, je pense qu'Anne de Vresse, elle a besoin de moyens pour fonctionner. Elle a besoin de moyens autour d'elle pour également travailler ces sujets-là. Et Anne de Vresse, pour terminer, c'est vrai qu'elle a pour mission, c'est de faire vraiment, je vous dis, des... Alors, on n'a pas le temps d'attendre. Donc, il n'y aura pas 6 mois de diagnostic avant éventuellement de travailler sur des propositions. Elle a moins de 3 mois pour faire des propositions, quoi.
Ouais, mais alors, c'est là où c'est intéressant. Des propositions sur quoi ? Uniquement sur la question de la protection de l'enfance ?
Sur la prévention et la protection de l'enfance. Plus globalement, non, mais j'irai même plus loin.
Le travail social.
L'action sociale.
D'accord, ok.
Je reprends ce que vous me dites, l'action sociale.
Ok, ok. Donc là, pour nous, c'est important, puisqu'il y a pas mal de choses qui se passent, là, par rapport à l'action sociale. Pour parler, par exemple, je vais commencer par la question des UTPS, oui. D'accord, du fonctionnement dans les UTPS. La mobilisation de l'automne et l'hiver dernier fait que M. Le Cerf, à un moment donné, a dit, et notamment à la demande de certains syndicats, on va faire des groupes de travail. Donc il y en a eu plusieurs qui ont été déclinés, dont un sur la fonction d'accueil dans les UTPS. Évolution, textuellement, évolution de la fonction d'accueil dans les UTPS. Ce groupe de travail-là n'est absolument pas, créé en réponse à la mobilisation des travailleurs sociaux. Dans la mobilisation des travailleurs sociaux, il y a un certain nombre de choses qui ont été remontées par rapport à la question de l'organisation du travail dans les UTPS, mais absolument pas sur la nécessité, le dogme de faire évoluer la fonction d'accueil dans les UTPS. Or, on s'est rendu compte, et on l'a dénoncé, vous avez dû le voir, que on regrette un peu, enfin, on dénonce un peu la malhonnêteté à ce niveau-là, c'est qu'on a utilisé une mobilisation pour faire croire que, notamment dans les discussions avec les représentants du personnel, émergerait une nouvelle organisation de la fonction d'accueil dans les UTPS, alors que ce n'était absolument pas la demande des collègues, et absolument pas la demande des organisations syndicales d'ailleurs. Et là, aujourd'hui, nous sommes dans des réunions auxquelles Mme Damini a participé d'ailleurs, donc il y a bien un lien avec la mobilisation et les fameuses 10 mesures, où la DGASOL décline son projet. Et ils ont même avoué que c'est un projet qu'ils ont dans leur carton depuis plusieurs mois, voire années, cette évolution de la fonction d'accueil. Mmh. On le sait, puisque il y a déjà des choses qui nous ont sorti, qui nous avaient déjà sorti quelques mois et années auparavant. Mmh. La démarche, elle est particulièrement biaisée et malhonnête à ce niveau-là. Et, bon, à la limite, ça, c'est une chose. Mais ce qui nous pose problème, c'est qu'on leur fait remonter. Et quand je dis « on », c'est effectivement notre organisation syndicale, mais a priori, on n'est pas les seuls dans les discussions qu'on a, puisque d'autres syndicats ne portent pas forcément les mêmes observations que nous, mais en tout cas la même vigilance, sur le fait que ce qui est en train de se mettre en place, comme un rouleau compresseur, puisqu'il y a une semblante de concertation, on nous annonce les choses, mais malgré nos remarques, ça n'apparaît même pas au PV des réunions, d'ailleurs. À aucun PV de réunion, nos remarques apparaissent. D'une réunion à une autre, ils continuent à avancer sans prendre en compte ce que nous, on leur fait remonter. Et pour ce qui concerne l'évolution de la fonction d'accueil dans les UTPS, pour nous, très clairement, et je pense que vous avez dû un petit peu l'entendre hier, et vous l'entendrez parce que vous faites le tour des DT, par les collègues que vous rencontrez, il y a un risque de transformation... De modification des pratiques dans les UTPS qui va toucher le travail social et l'approche qu'on a des populations et qui va pénaliser à terme les populations qu'on accueille. Je m'explique. Aujourd'hui, le principe qui fonde l'action sociale dans des missions comme celle du département, c'est ce qu'on appelle l'approche globale. Et l'approche globale, c'est pas un truc d'hier ou d'avant-hier, c'est un truc qui existe depuis les années 60 et qui existe avec la polyvalence de secteur. En fait, ce qu'on appelle le service social départemental, avant on appelait ça la polyvalence avant. On a juste changé son nom, je crois, dans le début des années 2000 avec une nouvelle transformation des circonscriptions en UTPS. Mais peu importe, la pratique professionnelle qui est exercée, ça s'appelle la polyvalence de secteur, c'est l'approche globale. Et l'approche globale consiste à prendre en compte la population, l'usager, l'habitant, dans sa globalité. C'est-à-dire qu'on le reçoit tel qu'il est. Et après, on fait le tri et on travaille avec lui sur ce qui est sa demande explicite, mais après toute la demande implicite. Et quand on est formé au travail social, notamment les assistantes sociales, sont formés à ça, justement, à dégager la demande explicite et des demandes implicites, pour pouvoir accompagner au mieux l'habitant. Hein. Ça... Nos interlocuteurs à la DGASOL, notamment certains, pas tous, hein, parce qu'on a beaucoup de techniciens qui ne sont absolument pas du social, mais je pense à Mme Sicard-Calca, qui est une de nos interlocutrices, elle sait de quoi on parle quand on dit ça. puisqu'elle est du métier, et en plus, fut un temps où elle le défendait, ça. Donc, un temps pas si ancien que ça. Donc, nous, on dit, il faut préserver ça, parce que aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, c'est que un habitant qui va aller dans une TPS va devoir rentrer dans un dispositif. D'ailleurs, on parle de dispositif, de procédure, on parle que de ça. On parle de charger de portefeuille d'usagers. On utilise des termes qui sont complètement contraires à l'approche globale. Et ces gens vont devoir rentrer dans dispositif, c'est-à-dire dans un catalogue de prestations que fournit le département. Or, ça remet en cause fondamentalement la mission d'action sociale que le département doit avoir. C'est-à-dire que le département, c'est sa mission première, et le département doit accueillir tout le monde. Et tout le monde dans sa globalité, et doit accompagner les usagers vers des dispositifs ou pas. Parce que c'est là qu'on a du mal à se faire entendre, c'est qu'on peut aussi accompagner des populations et donc passer du temps, de l'énergie et une équipe autour de familles, sans pour autant qu'on rentre dans un dispositif. C'est-à-dire que l'accompagnement social en soi n'est pas un dispositif. Mmh. Ce qui est un dispositif, c'est s'il y a un problème logement et qu'on l'oriente vers du FSL, s'il y a un problème d'insertion, qu'on l'oriente vers le RSA, etc., etc. Ça, c'est le dispositif. Là, aujourd'hui, c'est les dispositifs, autrement dit les outils, autrement dit le catalogue, qui est la porte d'entrée des gens. Et ça, c'est contraire aux valeurs du travail social, à ce qui fonde le travail social. Et aujourd'hui, dans tout ce que met en place le département et de ce que veut mettre en place la DGASOL autour de l'évolution de la fonction d'accueil, c'est ça. Parce que concrètement, c'est les secrétaires qui ne sont pas formés au travail social, mais qui sont formés à l'accueil, hein, pour la plupart, puisqu'elles sont habituées à recevoir les populations, elles sont en prise directe avec les gens, qui vont évaluer. C'est-à-dire que quand quelqu'un, vous allez dans une ITPS, vous avez une difficulté, ou bien vous avez, je sais pas, un problème éducatif avec les enfants, ou alors un problème, enfin, peu importe, vous allez en pensant rencontrer un travailleur social, bien, souvent, et vous allez pouvoir déposer des choses, qui va vous aider à faire le tri là-dedans et essayer de démerder avec vous la situation. Non, vous allez déposer à une secrétaire qui, elle, va orienter, aiguiller sur des dispositifs. Autrement dit, il y a une chose majeure qui change et qui change tout, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est plus, par exemple, l'assistante sociale de secteur qui va recevoir l'usager dans sa première demande et qui va pouvoir évaluer ses besoins, sa demande, et éventuellement ce qu'on appelle les demandes implicites, non exprimées.
Pour peut-être juste illustrer le propos d'Olivier, une femme qui peut arriver à l'accueil, demande d'avoir une assistante sociale, elle vient pour un problème alimentaire ou un problème financier, et finalement, parce que le travailleur social est formé à l'écoute, est formé aussi à déceler un petit peu qu'il y a autre chose, va réussir peut-être à amener cette femme-là à parler de la violence conjugale, par exemple.
Oui.
Alors que si c'est une secrétaire qui la reçoit, la secrétaire va entendre la demande d'aide financière et va l'orienter vers un dispositif, le secours catholique, une aide financière ou ce genre de
choses. Ou la secteur.
Ou la Et ne va pas entendre qu'il y a cette demande-là, et cette femme-là va rester avec sa violence, sans forcément avoir le courage de revenir une autre fois.
Mm-hmm. Et là, effectivement, on ne fait pas notre travail de prévention.
Voilà.
Parce qu'effectivement, il peut arriver à un moment donné.
C'est quelque chose qui est
un événement grave si on n'arrive pas à déceler ça, quoi.
En fait, le message que nous, on essaie de faire passer à la DGASOL, c'est que c'est pas les dispositifs qui règlent le problème des populations. Un dispositif, ça n'est qu'un outil. C'est pas une porte d'entrée, c'est un outil. Alors, on dit pas qu'il faut pas qu'il y en ait. Sauf que si on met le dispositif comme porte d'entrée, ça veut dire qu'on crée des guichets. Des guichets. Et c'est pas la vocation du travail social dans les départements. Parce que dans les départements, on doit être sur une approche globale. Parce qu'on est l'unique service public à pouvoir exercer cette mission de ce point de vue-là. Le CCAS exerce une forme d'action sociale ou de travail social qui est différente, qui est de nature plus à être de l'ordre du guichet, parce qu'il délivre des prestations, le CCAS. Nous, on ne délivre pas une prestation, nous, on délivre un accompagnement. Et en mettant un système de guichet, de portefeuille d'usage, vous savez, quand on entend des trucs comme ça, on a envie de foutre des baffes, sincèrement. Parce qu'en plus, quand c'est porté par des gens qui sont censés avoir bossé sur le terrain, c'est vraiment nier le ce pourquoi on a fait ce travail-là et le ce à quoi on a été formé. Nous, le message, vous l'avez dû l'entendre parce qu'on tourne en boucle, c'est que vous dites que vous êtes dans une forme, vous êtes dans l'écoute et dans une volonté de dialogue. Sur cette question-là, on est face à un mur. On enchaîne les réunions, sincèrement, franchement, hein, on peut nous accuser de plein de choses, mais on a mis énormément de bonne volonté et on a participé à tous les groupes. On a peut-être loupé un ou deux, parce qu'on avait autre chose à faire à ce moment-là, mais on a participé à tous les groupes suite à la mobilisation. On a joué le jeu et on a porté des choses. On n'est pas juste venu avec nos petits discours à 3-4, là. On a porté des choses et on a été accompagné de collègues qui sont sur le terrain. Et face à ça, quel que soit le discours qu'on portera, comme celui qu'on vient de vous donner là, qui est un discours de bon sens quand on est du métier, c'est nié, c'est même pas repris dans les comptes rendus, et on passe d'une réunion à une autre. Et là, la prochaine réunion qui a lieu mardi, ils l'ont annulée, ils l'ont reportée la semaine prochaine, au pied levé, je suis même pas sûr qu'on soit dispo, on va parler de la fiche de poste de la secrétaire. Donc, oui, mais on est en train de vous dire, et en plus, on n'est pas les seuls à le dire, alors, on le dit pas forcément tous avec la même manière et puis avec le même argumentaire, hein. Mais d'autres syndicats, notamment je pense à la CFDT, qui est aussi assez bien implantée dans le secteur social, et sur le même discours. Et face à ça, eh ben, c'est « Ouais, ok, d'accord, on vous écoute, mais on vous entend pas, et la prochaine fois, on va parler de la fiche de poste. » Nous, on s'en fout de la fiche de poste à la secrétaire, c'est pas le sujet. Donc nous, ce qu'on demande depuis un certain nombre de mois, et on aimerait bien être entendu là-dessus, et franchement, ça serait faire preuve de courage de la part de l'administration et de l'exécutif de mettre ça en place, c'est d'abord de faire un moratoire sur ce qui est mis en place. Parce que pendant que ces réunions se passent, la consigne en off, qui est passée auprès de certains responsables du TPS, c'est de le mettre en place. Donc il y a de la territorialisation qui est mise en place.
Déjà nous, depuis plusieurs mois.
On pense qu'il y a des choses intéressantes dans la territorialisation. Maintenant, il y a des choses dangereuses dans la territorialisation. Donc nous, on est prêts à en débattre. Sauf que là, non, on le met en place, point barre. Ce qui fait qu'il y a des équipes qui vont mal avec ça, ou qui se disent, mais c'est quoi le sens quoi, qu'on met à ça? Voilà. On met en place cette évolution de la fonction d'accueil. On est censé en discuter alors qu'elle se met en place. On a donné l'exemple de l'homme Lambersart qui est emblématique. On peut donner l'exemple de Gravelines qui l'est aussi, où on demande à des secrétaires, par exemple, d'aller faire des permanences d'accueil dans les secteurs, dans des centres sociaux, ce qui n'est pas leur taf. Donc voilà, ça se met en place alors qu'on donne un semblant de discussion qui n'en est pas un, puisqu'on n'est pas né de la dernière pluie. Et donc nous, ce qu'on demande, c'est un moratoire là-dessus. Ça ne veut pas dire vous arrêtez tout. Ça veut dire on met entre parenthèses un moratoire. Et pendant qu'on fait ce moratoire, on fait un débat. Et un vrai débat. Et le débat pourrait porter sur une question simple et qui aborderait l'ensemble de la question, c'est quel travail social on veut faire en UTPS. Ou doit-on ou veut-on faire en UTPS. Et alors là, vous allez voir que, bah vous le constatez, hein, dans les discussions que vous avez sur les secteurs, vous allez voir que les collègues ont plein de choses à dire. Et ce n'est pas des gens qui sont triés sur le volet, qui vont à la DGA Sol, parce qu'ils nous parlent de groupe de travail. On sait comment ils fonctionnent. Hein. Parce que moi, en plus, j'y ai fait partie quand j'étais... notamment avec Madame Devrez, qu'on appelait groupe de travail Action 38, je ne sais pas pourquoi. C'était il y a quelques années, et j'y étais en tant que travailleur social enfance. Et c'était sur notamment la relation avec les établissements, les MECS. C'était intéressant d'ailleurs. Hein. Je crois que c'est resté dans un tiroir. On n'a jamais... Action 38, il faut demander une fois à Mme Devrez, je lui demanderai. C'est quoi l'action, ça donnait quoi l'action 38? En tout cas, on a eu des échanges qui étaient riches et qui pour autant n'ont servi strictement à rien ou alors n'ont pas abouti sur ce qui a été porté par les collègues. Quoi. Bref, donc nous, voilà, c'est ce qu'on demande. C'est simple, hein, c'est pas grand-chose. On ne vous demande pas de renverser complètement la vapeur. On vous demande juste de mettre un moratoire, vraiment d'arrêter et de passer la consigne auprès des responsables zélés. D'arrêter de mettre en place ce qui est censé être en discussion et qui ne l'est pas en réalité, et puis qu'on ait un débat là-dessus. Et sur cette question-là, ça pourrait être vraiment quelque chose de riche, d'intéressant, et on pourrait confronter à ce moment-là nos points de vue, et notamment le point de vue que nous, on considère comme uniquement gestionnaire de dispositifs, de guichets, et l'approche globale que nous, on défend, et que de nombreux collègues encore sur le terrain défendent, même si les jeunes professionnels, malheureusement, s'éloignent de cette approche-là parce qu'ils sont... Ils sont plus trop formés à ça. Mais voilà, nous, on pense qu'il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. Et ça apaiserait aussi les choses.
Bon, pour être totalement transparent avec vous, moi, mon retour de congé, l'une des premières réunions que j'ai animées, c'était de faire un point global sur la protection de l'enfance. Et j'avais demandé également qu'on ait un focus sur, effectivement, ce qui est appelé... Hein, beaucoup de jargon dans cette administration, mais l'accueil inconditionnel de proximité et donc la réforme qui est en cours et qui normalement donne rendez-vous en comité technique de décembre pour valider ou pas cette démarche. Bon. Il y a eu beaucoup de sujets évoqués, donc je n'étais pas très satisfait également de ce qui m'avait été proposé sur la question de la fonction accueil, et donc j'ai demandé qu'on me fasse une petite note, mais surtout Parce que effectivement, ce que vous me dites là, moi, bon, ça m'intéresse. C'est qu'on me donne les éléments du débat. C'est-à-dire qu'en gros, effectivement, on me fasse un petit récap des positionnements des uns et des autres, qu'on me rappelle un peu quel est l'objet, quel est le projet porté, notamment, effectivement, vous l'avez dit, par Patricia Sicard, mais qu'on me dise aussi, typiquement, moi, je vous dis, hein, ce que je demandais, mais que dit Sud, voilà. Qu'est-ce qu'on propose et quelle est éventuellement.
Ils vous l'ont dit, ce qu'on disait
Parce
qu'ils ne le retranscrivent pas. Donc,
non, je sais, mais je vais être très honnête avec vous.
Parce que ce qui aurait été intéressant, par exemple, c'est que vous voyez, on se met autour d'une table, vous avez la DGSOL, nous, et puis on débat devant vous.
Je n'ai effectivement pas eu cette note. Hein, donc j'ai très clairement demandé. Donc, d'ailleurs, le travail était aussi annulé la semaine dernière, c'est que il n'était pas question de rediscuter. Tant que moi-même, je ne m'étais pas fait une opinion, avec tous les éléments du débat, et pas uniquement un son de cloche. Parce que, je ne l'apprends pas, hein. C'est facile hein, d'avoir des notes où on me dit « c'est merveilleux hein. ». Moi, et vous le savez, sur les cryptes quand même au début, on m'a fait, et je me suis quand même énervé une paire de fois, parce qu'on me faisait des points d'étape avec des magnifiques PowerPoint, en disant super formation, tout le monde est content.
Relisez le compte rendu, excusez-moi, du comité technique du mois de juin, vous n'étiez pas encore là, du mois de juin 2018, voilà, c'est ça, où ils nous présentent les CRIP et où on a apporté point par point des exemples concrets qui nous étaient remontés et de Valenciennes et de Roubaix, qu'ils ont nié, notamment Mme Grosch et Mme Christelle Ferrier. Ils nous ont nié, alors qu'on leur faisait remonter mais des exemples mais concrets. Voilà ce que nous ont dit les collègues de Valenciennes, d'Anzin, voilà ce que nous ont dit les collègues de Tourcoing, de Roubaix, et ça a été nié. Je pense que la substantifique moelle est apparaît dans le CT. Mais donc, relisez ça, vous allez voir. Mais ça, c'est...
Tout ça pour dire que...
C'est une erreur majeure.
La fonction, sur ce qu'ils appellent donc, la fonction accueil, etc. Moi, j'ai demandé un point complet donc à la fin du mois pour me faire une idée et prendre une décision. C'est-à-dire que je ne vous dis pas aujourd'hui qu'on va continuer effectivement à dérouler le tapis, comme c'était prévu, avec une espèce de rouleau compresseur qui nous donne rendez-vous en décembre pour valider ou pas quelque chose. J'ai besoin de me faire une idée. C'est pour ça aussi que c'est bien qu'on puisse en discuter. Vous voyez, ces éléments-là, c'est important qu'on les ait dans le débat. Moi, je vais en discuter aussi, notamment avec Patricia Sicard, avec la DGSOL en général. Et j'ai pas, enfin, très honnêtement, j'ai pas envie de m'entêter sur ce sujet-là.
Mais vous savez, monsieur Huss, il y a un truc qui est assez hallucinant. Effectivement, on nous parle d'accueil inconditionnel de proximité.
C'est le jargon.
Bien sûr. Hein. Ouais. Bon, nous, ça nous fait marrer. Hein. Mais la polyvalence de secteur, c'est ça, en fait.
C'est ça.
En gros, ce que je viens de vous décrire, c'est de l'accueil inconditionnel de proximité. Mmh. On supprime des permanences de secteur. On fait de la territorialisation. C'est-à-dire, par exemple, vous avez sur un territoire, vous avez le territoire qui est divisé en 10 secteurs, par exemple. Donc c'est souvent des quartiers. Alors souvent, les secteurs ont été réfléchis, puisque c'est en fonction de la densité de population, c'est en fonction de l'implantation, par exemple, des centres sociaux, etc. Donc pour pouvoir créer vraiment une dynamique. Et donc, normalement, la polyvalence de secteur, c'est qu'il y a une assistante sociale par secteur. C'est-à-dire qu'en gros, aucun habitant passera entre les mailles du filet, c'est-à-dire que chaque habitant aura droit à avoir une assistance sociale sur son secteur qui sera dans cette approche globale dont je viens de vous parler, avec des permanences de secteur, avec des professionnels qui, étant dans cette dynamique-là, s'implantaient sur le secteur. Ils connaissaient tous les partenaires, ils étaient repérés, reconnus, c'était vraiment créer du lien social. Voilà. Et donc, avec le CCS, avec les centres sociaux, etc., les CAF, etc. Ces secteurs-là, on les supprime. Et qu'est-ce qu'on fait? On parle de territorialisation. Parce que la sémantique, elle nous fait marrer. Hein. Territorialisation. En gros, la territorialisation, qui a des points positifs, hein, nous on le reconnaît, hein, dans la manière dont c'est fait, c'est sur un territoire où il y a 10 secteurs, et ben on fera 4 territoires. D'accord? Et donc on mettra 2 assistantes sociales ou 3 assistantes sociales par territoire. Ce qui fait que déjà, on est dans de la gestion d'effectifs. On est purement dans une logique RH et absolument plus dans une logique sociale, pour le coup. C'est-à-dire que si un territoire, il n'y a plus qu'une assistante sociale provisoirement parce qu'on n'arrive pas à recruter ou bien parce qu'on a mis à la vacance de poste des postes, suite à une mobilité, le territoire sera quand même couvert. Mmh. Mal, difficilement, parce que la collègue elle va tirer la langue, mais il sera couvert, quoi, d'un point de vue administratif. Voilà, on sera tranquille. Et là, on n'est plus dans la proximité. Logique, on est logique entre nous. C'est à partir du moment où on désectorise et on crée des territoires, on recule par rapport à la proximité. On est moins présent, on est moins sur le terrain. La logique voudrait qu'au contraire, si on veut augmenter la proximité, c'est réduire la taille des secteurs pour que l'assistance sociale puisse être vraiment opérationnelle et faire du travail de prévention pour le coup. Donc là, l'accueil inconditionnel de proximité, la logique, la sémantique, elle est contraire à la logique qui est mise en place. La deuxième chose, accueil inconditionnel. Mais non, quand on fait du guichet ou quand on fait un accueil exclusivement porte d'entrée, secrétariat, qui n'est, comme le disait Valérie, n'est absolument pas formé à l'écoute et au travail social, va entendre la demande et l'orienter vers des dispositifs uniquement, c'est-à-dire en gros, si tu rentres dans le catalogue ou tu ne rentres pas, des prestations ou pas, on n'est plus, absolument plus dans de l'accueil inconditionnel. Alors si l'accueil inconditionnel, c'est de faire en sorte que partout où on va, il y a de la lumière, il y a quelqu'un derrière un bureau, ouais, ok.
Oui, ou qu'on décroche le téléphone avec le taux de décrocher.
oui, parce que ça aussi.
Sans contact, voilà. Non mais.
Sauf que c'est pas parce qu'on décroche le téléphone que la personne.
Il y a une réponse.
Donc nous, ce qu'on est en train de dire, c'est que ce qui est assez, ce qui franchement nous met la nausée, hein, c'est qu'on va utiliser une sémantique pour parler d'accueil inconditionnel de proximité, tout en faisant le contraire, tout en faisant le contraire. Je me souviens même une réunion où Monsieur Fuchs était présent. Il nous a parlé de quoi? Il nous a parlé de. Il nous a sorti un terme, mais en gros, je lui ai dit, mais vous savez ce que c'est que la polyvalence de secteur, M. Fuchs?
C'est le fameux auteur du mode dégradé.
Oui, M. Fuchs. Ouais. Mais là, ce n'était pas, ça. Non, mais... il nous a sorti un terme, un peu techno, hein, et en gros, c'était de la polyvalence de secteur sans que ça soit de la polyvalence de secteur. Mais vous savez que ça existe depuis 1966, la polyvalence de secteur, comme pratique de travail social. Mais à aucun moment... une question simple. Dites-nous en quoi la polyvalence de secteur, l'approche globale, telle que je viens de vous la décrire, qui est de manière très succincte, hein, j'ai des collègues qui feraient ça beaucoup mieux que moi, notamment Mme Thierry, qui a bossé là-dedans depuis 83, je pense. En quoi c'est dépassé? En quoi ça ne répond plus à la demande des populations? Qu'on vienne nous le dire. À aucun moment on vient nous dire « Non, la polyvalence de secteur, ça répond plus aux besoins de la population. » À aucun moment on vient nous le dire. Au contraire, on vient nous dire maintenant on va faire de l'accueil inconditionnel de proximité. Bah oui, mais putain, c'est ce qu'on fait. Et par contre, ce que vous nous décrivez là, c'est tout le contraire. Donc voilà, nous, vous voulez effectivement essayer de vous... que les choses s'éclaircissent assez rapidement. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que, en attendant, on arrête quoi. On arrête les dégâts. Parce que, croyez-nous, c'est encore très en tension dans les UTPS. Ça pourrait répéter.
Vous avez senti hier après-midi que c'était...
Parce qu'on a eu un retour de votre...
C'était pas sur l'île.
C'est pas tout blanc, quoi.
Vous y allez pour prendre la température aussi. Hein.
C'est une question de... moi, j'ai pas envie d'aller dans les UT uniquement quand ça va mal.
On ne vous reprochera pas. Hein. Exact, voilà, on ne vous reprochera pas d'aller faire un tour et d'aller sur le terrain, comme vous dites. On ne vous reprochera pas du tout.
Mais vous avez raison. Moi, hier, j'ai quand même un certain nombre de... si vous avez un compte-rendu, vous avez peut-être eu un compte-rendu précis, mais j'ai eu quand même le témoignage de situations individuelles où, on ne peut pas rester indifférent à ça.
Bien sûr.
Moi, effectivement, tous les parents, hein, très clairement, je vous le dis, effectivement, je le reconnais, mais c'est justement aussi pour ça qu'il ne faut pas lâcher du tout la pression et qu'on doit continuer à travailler. On n'a pas fini de travailler. On a répondu, c'est pour ça que je vous le disais, on a répondu un peu dans l'urgence, c'est vrai, parce qu'il y avait une mobilisation d'ampleur, avec des mesures,
on va y revenir après là-dessus.
La prétention, effectivement, de régler tous les problèmes, bien au contraire.
On a deux petites choses à vous dire là-dessus.
C'est-à-dire que ça continue à se dégrader, monsieur Hus. C'est ça le problème.
Ça se dégrade et on est face à une direction autiste.
Oui, mais alors.
Qui est dans son truc.
Excusez-moi, sur ce qui est de se dégrader, j'aimerais comprendre comment, parce que ce que j'ai expliqué par exemple hier, puisqu'on me dit, mais de toute façon ça continue, etc. Je dis, nous, on a par exemple procédé à 160 personnes recrutées depuis l'annonce. Bon. Alors certes, effectivement, il y a encore des personnes qui partent, ça c'est important de souligner, donc il faut quand même qu'on regarde pourquoi. Mmh. Donc ça, on a une petite idée, mais on a quand même recruté le budget 2019.
Parce que vous vous souvenez, à plusieurs
reprises... Sur le territoire, on a recruté.
Oui, mais rappelez-vous, là aussi c'était un point qu'on souhaitait aborder avec vous aujourd'hui, très rapidement, c'est que vous étiez engagé en comité technique, et pas que vous d'ailleurs, à nous transmettre où la DRH l'avait fait, madame... Fournier, je pense. Je pense que c'était elle qui en avait parlé.
Vous n'avez pas eu le détail des recrutements?
Rien. Non. Rien. On ne sait pas où. Et on avait demandé qui, parce que... quand je dis qui, ce n'est pas nominativement. Hein, c'est quel métier a été recruté sur quelle UT. On n'a rien.
Bon, je crois qu'on vous l'avait communiqué très bien.
Non, sincèrement, non, on vous dit, on n'a rien reçu.
Parce que là-dessus, on n'a rien à cacher, franchement.
Bah, je me doute, si vous dites qu'effectivement, on a procédé à 180, c'est ça ?
160,
recrutements. Ben oui.
Mais il faut, voilà, là-dessus, effectivement, il faut qu'on soit transparent, qu'on vous dise. Alors, c'est, voilà, ça, c'est typiquement comme un truc sur lequel, aujourd'hui, alors ça peut paraître du détail, excusez-moi, hein, mais on ouvre. Enfin, c'est du détail, moi, quand il y a un an, je suis arrivé, c'était quand même pas si évident que ça. Mm. On a ouvert systématiquement en externe.
Oui, mais...
Il y a un an, souvenez-vous, on repassait 13 fois en interne pour finalement un poste qui ne trouvait pas preneur, puisqu'il n'y avait personne.
Oui. Là-dessus, on est d'accord.
C'est quand même un sujet.
Là-dessus.
Et peut-être, alors, pour dire, peut-être qu'il y a d'autres choses qui se dégradent. Et,
mais vous avez, excuse-moi, vous avez recruté 160 postes sur des postes qui avaient été. C'est des postes qui étaient laissés vacants. On l'a convenu ensemble. Monsieur Le Serf, d'ailleurs, de manière assez maladroite, l'a dit à la réunion de février, je pense. C'était février ou janvier, je ne sais plus. Mmh.
C'est des postes vacants.
Oui, donc ça veut dire que vous avez rebouché en partie ce qui avait été vidé. Donc, soyons logiques, purement logiquement, ça va mieux. Ça devrait aller mieux.
D'accord.
Ça devrait aller mieux, mais on n'est pas revenu au niveau de travail et de qualité de travail qu'on avait avant.
Le bateau, il continue à prendre l'eau.
Je suis d'accord avec vous. Non, mais attendez. Oui, mais encore une fois, où est-ce que j'ai fait ? Ce que j'ai souhaité faire, c'est arrêter l'hémorragie. Mm.
Oui, et là, pour le coup, nous, on pense que s'il y a bien quelque chose sur lequel a débouché la mobilisation, c'est ça. C'est que l'hémorragie était en partie arrêtée.
Et encore une fois, tout l'enjeu pour moi de ces prochains mois, c'est aussi pour ça, encore une fois, c'est le travail d'Anne de Vraise. Donc, comptez sur moi aussi pour qu'on n'ait pas uniquement un discours théorique, mais qu'on aille dans le concret. C'est justement d'aller plus loin. Parce qu'on ne peut pas s'arrêter là. On a essayé de stopper l'hémorragie. Maintenant, il faut qu'on continue à bâtir quelque chose, de se structurer pour améliorer la qualité de travail. Dernière chose quand même, le budget 2019 sur l'enfance, famille, jeunesse, c'est un des seuls budgets qui, effectivement, est en augmentation. Globalement, aujourd'hui, on est sur une stabilisation des budgets, de façon très globale, à l'échelle du territoire, à l'échelle de l'ensemble des thématiques départementales. Mais l'enfance, famille, jeunesse, c'est l'un des seuls budgets en augmentation.
Les AMAS. Ah oui. On a monsieur Huss.
Elles fondent comme une neige au soleil.
Il y a des enveloppes AMAS dans certaines UT. On peut vous citer Maubeuge, on peut vous citer aussi Gravelines, qui ont baissé de 80% en 3 ans. 80% l'enveloppe AMAS.
Il n'y a plus rien là. Dans certaines UT,
pour les populations, quasiment. 80%. Donc là aussi, ce qui pourrait être bien en termes de transparence, puisque nous, on croit que l'enveloppe a augmenté, de toute façon, c'est au budget. Mais transmettez l'ensemble des enveloppes AMAS. 2016, 2017, 2018, 2019, de l'ensemble des UTPS. Soyons transparents là-dessus et transmettez le montant des enveloppes à AMAS de chaque année civile pour pouvoir vraiment voir là où il y a des augmentations, là où il y a des baisses. Mais là, concrètement, les collègues obtiennent de l'aveu de certains cadres que l'enveloppe a baissé de 80% en 3 ans.
Mais ça,
c'est énorme.
Il y a eu des grosses diminutions, on le sait.
Ouais.
Mais encore une fois, enfin, ouais. Cet été, c'est pareil, je suis allé à l'ETMRT. On m'explique, et ça, c'est complètement inadmissible, qu'il y a des gamines, par exemple, qu'on récupère, qu'il faut placer. Il y a des gamines qui n'ont même pas une culotte à se mettre. Ils sont les travailleurs sociaux, ils sont obligés d'aller chez Imen, par exemple, à Tourcoing, chercher un truc. Enfin, c'est quand même c'est scandaleux.
Ça a toujours été ça.
Ouais, mais attendez.
Enfin, ça a toujours été. J'ai jamais été légion, hein, mais ça arrive.
Oui, mais alors.
Mais qu'on récupère de leur famille ou bien qu'on récupère d'établissement ?
Pas forcément d'établissement, non, de la famille.
Oui, oui, mais ça arrive,
et
donc, ça.
Et ouais, mais alors, c'est là où on doit avoir un fonds d'urgence, on doit avoir quelque chose.
Ah, voilà, on est d'accord.
Et le problème aujourd'hui, c'est que quand même, vous avez notamment les travailleurs sociaux qui sont obligés de payer de leur poche.
Oui.
Alors, bon, c'est ça, c'est parfois un déplacement un peu plus loin. Enfin, il y a des choses comme.
Un repas le midi partagé avec des collègues ou avec une fratrie.
Voilà, où c'est finalement le chèque des
jeunes qui sert. C'est plus remboursé.
Voilà. Donc ça, voilà, je vous le dis, moi, ça m'a, enfin, ça fait partie des sujets, vous voyez, où j'ai noté aussi cet été, moi, ça m'interpelle, faut qu'on travaille là-dessus.
Ouais.
C'est pour ça que, je vous le dis vraiment, c'est pas uniquement de l'affichage, je suis conscient que, de toute façon, il y a encore du travail, et si je vous dis que à mon retour de congé, la première chose que j'ai faite, c'est d'avoir un point sur la protection de l'enfance, c'est parce que vraiment, moi, j'avais ma liste, hein, de toute façon, je prends pas mal de notes, donc j'ai une liste de toutes les tous les petits irritants, hein, les trucs qui, en fait, à force d'être petits, gonflent et deviennent vraiment
insupportables.
Voilà. Pour qu'on en parle, quoi, et qu'on en discute. Aujourd'hui, c'est vrai que, voilà, c'est je l'en connais. On a répondu à des questions à court terme. On n'a pas structurellement répondu à la problématique qui est liée à la prévention et la protection. Voilà, donc c'est sur ces sujets aussi qu'on doit...
Mais nous, on prend acte, hein, du fait que vous souhaitez que les choses évoluent. Quand vous dites qu'il y a encore du travail, nous aussi, on pense qu'il y a encore du travail. Donc, on ne veut pas des choses figées. Hein, on n'est pas, contrairement à l'image que des fois on veut nous donner, on n'est pas conservateur. On pense que les choses peuvent évoluer, ils doivent évoluer. Maintenant, il y a des fondamentaux dans la pratique d'un métier qui, s'ils doivent être mis en question, doivent être questionnés, et ne le sont jamais. Donc quand vous dites qu'il y a encore du travail et des choses à faire, on est d'accord, et à la fois ça nous inquiète, parce que la DGSE nous dit la même chose. Hein. Et nous dit la même chose, et ce qu'ils mettent en place, c'est dramatique. C'est dramatique, et ça va générer des tensions et des conflits dans les équipes. Vous savez qu'on fait un tour à partir de la semaine prochaine des DT, donc on va rencontrer aussi, nous, les collègues, sur ces questions-là, et sur cette question-là majeure. On a déjà pas mal de retours, on a encore eu des coups de fil là du Cambrésis, alors que c'est un secteur historiquement qui est très peu dans l'interpellation cambrais, hein, au niveau syndical, je parle. Hein. c'est le désert syndical cambrais, notamment au niveau de l'action sociale. Et là, c'est des choses, c'est la première fois qu'on nous interpelle autant sur ce secteur-là par rapport à la question du sens, ce qu'on nous demande de faire, parce que là-bas, ils mettent en place par exemple la territorialisation. Ouais, d'accord, nous on est prêts, nous, à évoluer, nous on est prêts, de toute façon, on n'arrête pas. Alors, le travail social, l'action sociale, et combien il y a eu de réorganisation depuis 15 ans, 20 ans. Donc, mais il faut que c'est du sens dans le boulot. Enfin, nous, on n'est pas formés à ça, on n'a pas fait ce métier-là pour ça, que ce soit les secrétaires. Moi, j'ai y a des secrétaires qui l'ont dit à Madame Sic, devant des secrétaires qui accompagnaient la CFDT, je pense, qui dit, mais Madame, moi, je ne vais pas le faire, ce que vous me dites de faire, là. Moi, je ne vais pas le faire, ce n'est pas mon travail. Moi, je n'ai pas été formé à ça et je ne veux pas. Si je veux faire ça, je passe un diplôme d'État. Je fais un diplôme d'État. Il y a des collègues qui l'ont fait, d'ailleurs, des secrétaires qui ont repris une formation initiale d'assistante sociale, d'éducateur, en DE, et qui ont passé le concours, et qui sont... J'ai une ancienne secrétaire qui est assistante sociale, maintenant en ASE, à Seclin. Donc il y en a qui l'ont fait, qui ont fait cette démarche-là, mais les secrétaires qui restent en poste, c'est le secrétaire médico-social, et c'est un métier spécifique. Il y a un truc et ça, je pense que c'est un gros point de désaccord qu'on a ensemble, c'est... nous, on part du principe que, dans le service public... il y a un bon nombre de métiers qui ne sont pas fongibles. On pense que nous, on est pour la pluridisciplinarité, on est pour la complémentarité. Mm-hmm. Or, dans des logiques comptables, on le sait, des logiques un peu gestionnaires, notamment en termes de ressources humaines, on a tendance à vouloir rendre les gens polyvalents, subsidiaires entre eux, pour pouvoir régler le problème qui est courant des effectifs et des économies sur la masse salariale. Et dans le travail social, c'est quelque chose qui est, et ça date pas d'il y a un an, hein, ça date pas de vous, hein, c'est pas vous qui avez porté ça. Hein, ça commençait même déjà sous Monsieur Caner et Monsieur Manier. Hein, donc il y a cette volonté-là de rendre les gens polyvalents et fongibles dans leur poste et dans leur mission. Quand vous mettez trop de jobs, ça nous a fait sourire, mais on peut pas tout troquer. Enfin, je veux dire, un administratif de la DMG qui pourrait troquer son job avec un administratif. Même pas en UTPS, parce que secrétaire médico-social, c'est une approche carrément différente que du secrétariat. Ouais, c'est pas possible.
Si vous avez bien compris, ton point de vue, c'est pas du tout l'esprit.
On sait pas, parce que regardez, sur le programme des immersions, c'est assez sidérant ce qui se passe. D'ailleurs, c'est l'un de nos irritants, on en parlera après.
Les immersions, c'est un sujet sur lequel, typiquement, on doit s'améliorer. Quoi. Les immersions qui font, effectivement, qui durent des plombes et qui ne débouchent sur rien, c'est quand même un scandale.
Ça s'appelle de l'intérim.
Voilà, exactement. Donc, c'est plus des immersions. Les immersions, moi, j'ai connu ça dans notre collectivité, ça dure pas un an. Quoi.
Et nous, on était d'accord avec les immersions au départ.
Tant qu'on job, je peux vous le dire, tant qu'on job, c'est un truc que j'ai mis en place à Tourcoing. Parce qu'aujourd'hui, on constate que notamment les agents qui font une demande de mobilité, vous allez beau avoir un entretien professionnel, vous allez beau le dire à un moment donné, ou écrire à la DRH, je fais ma demande de mobilité, il y a parfois un certain temps, un certain délai entre le moment où je fais ma demande et le moment où je peux faire une reconversion professionnelle, changer de service, etc. Il y a plein de raisons qui peuvent expliquer une demande de mobilité. Hein. Oui, on a fait le tour du travail, ou il y a une compatibilité d'humeur, ou je m'entends plus avec mon chef, etc. Enfin, il y a plein de raisons. Moi, je l'ai mis en place à Tourcoing pour me dire, ben voilà, l'idée, c'est de mettre en réseau des personnes qui en aient soit de changer de boulot. C'est ça l'idée, changer de mission. et se dire, bah, finalement, voilà, toi, tu es sur telle mission, bah, qu'est-ce que tu fais? Bah, moi, je suis sur telle mission, voilà ce que je fais, je ne suis plus bien où je suis, par contre, bah, si ça t'intéresse, on échange. On se fait une période d'immersion, pour le coup, mais une période d'immersion, ce n'est pas 6 mois, c'est, je ne sais pas, moi, 15 jours, et puis, à l'issue, on valide ou pas le fait d'échanger de poste. J'ai fait à
Tourcoing. Mais on ne peut pas le faire sur tous les métiers, ça vous êtes d'accord ou pas?
Oui, on est bien d'accord.
C'est essentiellement dans le filière administratif que ce genre de choses peut se décliner.
Ah, mais je suis d'accord avec vous.
Hein. Technique,
je l'ai fait.
Pas possible. Un agent de collège ne peut pas aller troquer son job avec un collègue qui va bosser sur la voirie.
On est bien d'accord. Et d'ailleurs,
et dans le social idem.
À Tourcoing, où, donc dans une commune où vous avez différents, vous avez des filières techniques, etc., je n'avais pas un agent de propreté qui me demandait de faire un truc qui n'avait absolument rien à voir. Ça c'est vrai. Mais où est-ce que j'ai un peu long pour vous expliquer ça, mais pourquoi? Parce que finalement, au bout de la première campagne de ton job qu'on avait réalisée, j'avais un tiers des personnes qui avaient fait une mobilité, qui avaient réussi à trouver chaussures à leurs pieds, qui avaient réussi et qui en étaient satisfaits. J'ai un deuxième tiers qui, par le travail finalement de promouvoir son propre boulot, son propre job, disait bah, finalement je suis pas si mal que ça.
Ouais.
Donc, et puis effectivement, j'avais un dernier tiers qui n'avait pas trouvé. Mais donc, j'ai quand même réussi à motiver des gens et surtout à trouver des mobilités assez rapidement, en circuit court, si vous voulez, qui ne durent pas des mois et des mois.
On comprend un peu la logique.
Ouais, c'est un peu l'esprit, si vous voulez. Donc,
sauf que c'est pas comme ça que les choses sont. Quand vous l'expliquez ça paraît clair. En plus, quand vous précisez qu'effectivement, ça ne peut pas s'appliquer à l'ensemble des métiers et des filières, ça nous paraît clair. Sauf que c'est pas comme ça que ça a été vraiment présenté.
Il y a encore un travail de pédagogie. Et moi, je le dis aussi, puisqu'il y a une alerte de Dominique Thierry sur le sujet. Je ne suis pas content non plus, parce qu'effectivement, enfin, pour faire foirer un truc, il n'y a rien de tel. Il y a un mail qui a été envoyé à tous ceux qui souhaitaient une mobilité. Je le dis. Je sais qu'il y a eu une excuse, et puis de toute façon, il y a une saisine.
Lucile.
Ben oui, mais bon, enfin, effectivement, enfin, c'est le meilleur moyen pour planter un projet, hein, franchement. Donc, je ne suis pas très, très ravi.
Juste pour finir sur l'action sociale.
Oui, oui.
Comme ça, on a fini ce qu'on avait à vous dire.
Sur ce sujet-là.
Oui. Sur l'action sociale, vous étiez aussi engagé. Et pas monsieur le CERF, lui, il s'était pas engagé là-dessus, mais vous étiez engagé là-dessus, à apporter une réponse sur les 19 interpellations qu'on a déposées au moment de la grève. Vous souvenez ?
Vous les aviez eues.
Au moment de la grève, je dirais même au début de la grève, il y a 19 équipes qui nous ont fait remonter des interpellations qu'on vous a transmises.
Très concrètes.
Et vous disiez, on y travaille dessus. Vous avez apporté une réponse à travers les 10 mesures que nous contestons en partie, puisque ça ne répond pas à l'entièreté de la problématique qui a été posée, mais qui ne répond pas aux problématiques in situ de chaque équipe. Un exemple, parmi les 19, il y avait Saint-Amand.
Oui.
Saint-Amand a fait remonter donc en octobre un certain nombre d'irritants, notamment sur la question de la mise en tension de l'équipe par rapport à des problèmes de recrutement ou d'absence de chef, ou de chef qui... Il y a eu jusqu'à 3 chefs dans la même équipe. C'est-à-dire que en fonction de... 3 chefs s'étaient répartis l'équipe, en fait. Donc ça a posé un problème de cohésion, de coordination, etc. Mais ce n'est pas le plus important. Au mois de mai-juin, les collègues ont fait une déclaration de danger grave imminent. On a dû intervenir, la DT est intervenue. Et l'ADT a été témoin de collègues qui craquaient complètement. C'est-à-dire que si à un moment donné, on avait pu apporter, ou pas, hein, mais peut-être que ça n'aurait pas suffi, hein, mais si on avait pu apporter une réponse au mois d'octobre, peut-être qu'on aurait pu éviter la DGI. Idem pour l'ASE de Cambrai-Marcoing, qu'on a revu cette semaine, avec le problème lié à la hiérarchie. Elles vous ont interpellé, donc nous on a relayé leur appel, c'était au mois de juillet, elles sont sans réponse. La seule réponse qu'elles ont, c'est que le chef de service a annoncé qu'il partait en mobilité. Voilà. Donc ça réglera en partie le problème, mais a priori elles sont encore assez inquiètes sur la manière dont les choses vont se gérer au sein du TPS et la manière dont l'intérim sera assuré. Donc ça, on en reparlera probablement. Mais en tout cas, nous, on les a vus mardi midi. Hein. C'est mardi que je suis allé à Cambrai. Elles nous disent, Monsieur Huss ne nous a pas répondu alors qu'on lui a écrit. Donc je vous passe le message. Mais en tout cas, vous voyez, concernant les 19 UTPS, nous, on attend des réponses, parce que, indépendamment de ce qu'on a pu faire remonter globalement sur la machine action sociale et prévention et protection de l'enfance, il y avait dedans des choses précises vécues par les collègues de terrain. Et vous, quand vous relisez ce qu'on vous a transmis, vous verrez que elles l'ont écrit, elles ont passé du temps à l'écrire sur du temps du midi, sur des temps de réunion, pour lister quels étaient leurs irritants. Voilà. Et la dernière chose, c'est les ASFAM. Dans votre vidéo, vous dites que le statut des ASFAM a été consolidé. Bon, sourire en coin, quoi, de notre part. Hein, parce que d'abord, il faudrait nous dire en quoi il a été consolidé. Nous, on pense qu'il ne l'a pas été. Vous avez dû... je pense que vous avez été destinataire de l'ensemble de nos remarques par rapport à la question des assistantes familiales, et notamment ce qui est mis en place. Là aussi, nous, on trouve que c'est une supercherie. Parce qu'on a fait remonter, on n'est pas les seuls, hein, puisque la CNT est aussi, pour le coup, comme ils ont des ASFAM, ils ont fait remonter des choses concernant l'état des lieux, la situation des ASFAM, notamment sur la pratique professionnelle. Et les réponses qui s'est apportées, c'est on a pris en compte, mais on répond à côté. Exemple, à aucun moment il a été évoqué que la question... de la nature du contrat et notamment la mise en place d'un contrat à durée CDD était une problématique, mais c'est la réponse qu'apporte. Vous savez, c'est la fameuse phrase « Venez avec vos questions, je viendrai avec mes réponses ». C'était un peu ça, quoi. Et on a eu le sentiment que c'était ça. Et on a porté, et pour le coup, on a porté, et des collègues sont venus, des ASSAM sont venus à ces réunions dire des choses et elles n'ont pas été entendues. Et nous, on déplore malheureusement... l'opération de communication qu'il y a derrière. Vous avez l'intention de recruter, et vous avez raison, il faut recruter du personnel qualifié, et c'est pas évident, parce que c'est un métier de cinglé. Moi, 10 000 balles, je le ferais pas, ce métier. Et il y a une opération de communication, même M. Duzard annonce des montants de salaire qui sont faux, quoi. Enfin, nous, on a alerté sur les salaires. Quand on vous dit, par exemple, une assistante familiale qui accueille un gamin et est payée en dessous du SMIC, c'est une réalité. Je veux dire, quand on dit que le département est un département qui paye le mieux en France, c'est faux. On paye au minimum fixé par le code de la famille d'action sociale. Donc ça, c'est du mensonge qui peut marcher dans une opération de marketing de recrutement grande échelle qu'on voit à Pôle emploi, mais qui ne fonctionne pas auprès de nos collègues. Et nos collègues disent, mais ils sont de nous, quoi. Mais ils savent quelle est notre réalité. Notamment par rapport aux petits irritants qui sont chroniques et qui touchent les ASSAM fortement, les travailleurs sociaux aussi, mais en fait tous les agents qui sont, comme on dit, nomades, c'est frais de dette, quoi. Ça devient du grand n'importe quoi, hein. Du grand n'importe quoi. Des ASSAM pour qui on leur donne des formations obligatoires, on leur rembourse plus leurs frais de déplacement alors que c'est... C'est considéré comme des formations obligatoires, c'est du grand n'importe quoi.
Oui, ou alors un remboursement sur un tarif de bus, alors que c'est un secteur rural, où pour faire un trajet en bus, il faut 2 heures, par exemple, au vu de leur métier, elles ne peuvent y aller qu'en voiture. Enfin,
sur Dunkerque, ils ne veulent même plus rembourser parce qu'ils considèrent que le bus est gratuit, alors que la collègue, elle n'est pas dans Dunkerque.
On a des collègues qui doivent conduire, par exemple, 3 enfants sur des lieux différents, des endroits différents, en devant. Prendre le bus, quoi. C'est pas possible. Non, mais d'un point de vue organisé.
D'accord, même le fait de déplacement, remboursement, et il y a un gros sujet. Vous voyez, pas plus tard que cette semaine, j'avais redemandé un point spécifique sur le sujet pour les ASFAM, parce qu'effectivement, ça nous était remonté quand même assez.
C'est chronique, hein.
Voilà, exactement. On m'a reproposé un truc qui s'appelle une usine à gaz et qui, en gros, vous auriez raison, si j'annonçais ça, vous me direz encore de l'enfumage et c'est hors sol. Donc j'ai évité, je dis voilà, s'il vous plaît, reprenez-moi, vous faites une feuille blanche et vous faites un truc simple, lisible, pour les assistants familiaux.
Mais monsieur Huss, tout est dans notre déclaration liminaire, hein, par rapport à ce. Non mais tout est dedans,
oui,
toutes les revendications.
Après, il y a une question de réglementation, donc c'est ça qu'il faut voir. Mais bon, moi, il ne faut pas non plus mettre la réglementation à toutes les sauces et dire qu'on ne peut pas. Aujourd'hui, effectivement, et me rajouter, comme il m'était proposé, une couche, un truc qui existe déjà, qui est déjà une usine à gaz, qui est lisible et compagnie, ça ne sert à rien. Donc vraiment, on va là-dessus. Ça fait partie, vous voyez, quand on parlait des chantiers de rentrée, moi, dans ce chapitre-là, j'y inclus, et il faut vraiment qu'on avance, quoi, parce que c'est plus possible. Donc, sur les frais de déplacement, vous avez raison. Sur la rémunération, moi, j'ai demandé à ce qu'effectivement, moi, j'avoue que ça m'a marqué votre interpellation. C'est vous qui avez évoqué le premier, hein, la question de la rémunération. Moi, j'ai demandé également, ça faisait partie des points de rentrée, qu'on regarde un peu. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui? Quel serait l'effort? Moi, je ne connais pas le budget là-dessus, mais quel serait l'effort de la collectivité pour ce qu'il y a au moins effectivement une NASFAM et le SMIC, touche au moins le SMIC. Quel est l'effort de la collectivité?
En fait,
qu'on objectif.
En fait, il joue sur les chiffres en disant oui, mais.
Oui, mais c'est parce qu'il y a le
on paye les congés.
Oui, voilà.
Oh, non, on paye les congés. En fait, on paye les congés parce qu'on considère que les NASFAM ne les prennent pas. Et donc, de ce fait-là, en payant les congés, la NASFAM est juste au-dessus du SMIC.
Mais en réalité, c'est de la.
C'est de la manipulation de chiffres. C'est de la manipulation de chiffres. Après, il y a la confusion volontaire entre le salaire, et l'allocation d'entretien, qui est un outil de travail, qui n'est pas du salaire. Et ça, c'est aussi malhonnête de jouer la confusion là-dessus. Une ASFAM qui accueille un gamin, c'est 300 balles en moins brut en dessous du SMIC. Une ASFAM qui accueille deux gamins, c'est 30 balles au-dessus du SMIC. En gros, hein, c'est de mémoire, je vous le dis, hein, mais on l'a écrit. Hein, mais c'est ça, la réalité. Donc on ne peut pas dire que les ASFAM soient bien rémunérées. C'est faux. Nous, on travaille en réseau. On fait du benchmarking régulièrement avec nos collègues qui sont dans les autres des syndicats, qui sont dans les autres départements. Des syndicats, mais il y a des ASFAM, elles sont très bien payées dans d'autres départements. Elles ont en plus une politique d'action sociale qui est vraiment de qualité. Sincèrement, dans le département du Nord, on est à la roue, hein, mais vraiment, hein, sur ces questions-là. Hein. Après, concernant vous dites qu'il y a la réglementation par rapport aux frais de DEP, ouais, c'est vrai, mais des fois, on s'assoit dessus. Hein, plusieurs fois, on a fait remonter le fait que des notes de frais ont été supprimées. C'est illégal, hein. Quand quelqu'un fournit une note de frais, on n'a pas à la supprimer, du logiciel. On peut demander à ce qu'elle soit rectifiée, on peut demander à ce qu'elle soit justifiée, qu'elle puisse être complétée, mais on n'a pas à la supprimer. Les collègues ont des notes de frais qui ont été supprimées, que ce soit des ASFAM ou des travailleurs sociaux d'ailleurs, hein, parce que ce n'est pas propre aux ASFAM. Et ça, on a interpellé, on n'a aucune réponse. D'ailleurs, on se pose la question par rapport à Ulysse, ce n'est pas externalisé la gestion Ulysse, c'est bien interne. Nous, on pense, sincèrement, ce qui serait intéressant, puisque vous pensez qu'il faut... Nous, on pense que ce qui serait intéressant, c'est qu'il y a un débat, une concertation, une négo, on ose encore poser ce terme-là, une négociation, entre nous sur la politique voyage, qu'on la remette sur la table, la question de la politique voyage du département. Et que ce soit par rapport aux critères de remboursement, aux montants, etc., hein, qui sont effectivement réglementaires pour la plupart, hein, puisque c'est fixé, c'est interministériel, mais aussi sur les procédures. Nous, on a connu les frais de DEP avec sur papier. Ouais. On a connu l'arrivée de Ulysse et il semblerait que ce qui se passe maintenant, ça échappe totalement à la logique et au bon sens. Et j'irais même plus loin, c'est qu'en plus, il y a des positions qui sont totalement illégales, notamment sur le respect de l'arrêt quadriennal, par exemple, où on comprend que pour des questions de gestion, il faut limiter dans le temps en disant faites vos frais de DEP dans les 6 mois, s'il vous plaît. Mais en aucun cas, ça peut être.
Vous avez vu que j'avais rectifié.
Oui, mais c'est pas la première fois. C'est pas la première. Et régulièrement de le rappeler. Alors on pense qu'il y a des gens très zélés, hein, des très bons fonctionnaires, qui sont très zélés et qui pense peut-être avoir un pouvoir aussi en appuyant sur la touche accord ou désaccord, c'est possible, hein, ça génère.
Je sais pas si vous... Oui, ça génère peut-être un peu
des choses, hein, probablement, mais en tout cas, on a dû plusieurs fois intervenir sur.
Oui, vous dire très franchement, je sais pas si vous avez cette personne en tête, mais Laurent Nolot, pour moi, est un.
Bon, on a déjà eu des heures avec lui régulièrement.
Hein. Ah, donc, vous savez que c'est quelqu'un qu'on est en train de déplacer sur une autre mission, du coup, pour qu'il ne s'occupe plus de ça. Moi, j'ai demandé très clairement. Qui ne s'occupe plus des frais de déplacement. Parce que enfin, j'avais quand même des remontées, notamment dans les UTPS, mais pas que, où c'était quand même. C'était plus possible. Quoi. C'est-à-dire que le type qui est presque insultant au téléphone, c'était plus possible.
Il a déjà demandé une sanction disciplinaire contre moi.
Mais il y a
sincèrement, hein, pour vous citer un peu le personnel, alors, moi c'était rigolo, on a trouvé ça marrant, hein, mais c'est quelqu'un qui effectivement. Qui se croit investi d'un pouvoir et qui nie la réglementation.
Et puis qui est dans un déni total. Enfin, excusez-moi, ah ouais. Vous savez que les frais de déplacement, c'est un sujet, pour le coup, c'est irritant. Ça fait partie des tout premiers sujets sur lesquels on m'a interpellé, parce qu'il y avait des problèmes, globalement, dans cette collectivité sur les frais de déplacement. Tiens, on va inviter une loue à me parler des frais de déplacement, et on l'a fait en CDG, quoi, en comité de direction générale, un tout premier. Je